Merci de cette proposition parce que ça m'a fait travailler. Voilà, c'est la formation permanente des évêques. Ça passe aussi par ces interventions qui voilà, ça m'a fait travailler. Non pas que j'ai découvert des choses tout à fait nouvelles, mais ça m'a permis de les classer. Je voudrais commencer par des considérations effectivement évangéliques, hein, puisque le thème que j'ai choisi, c'était ça, le rapport entre le sport et l'évangile. L'évangile vivant, c'est Jésus, hein, évidemment. Et je crois qu'on peut dire clairement, même si peut-être il n'en avait pas conscience à l'époque parce que la dimension du sport était moins présente, mais Jésus est un sportif. Ça ne fait aucun doute. Dans l'évangile, il ne fait que marcher. Voilà. Donc Johann Diniz doit être content. Jésus est un grand marcheur et il enseigne en marchant et il unifie le groupe des apôtres en marchant et il témoigne en marchant dans ce mouvement de ce que doit être la personne humaine ajustée. Donc la première réflexion un peu théologique que je voudrais faire, c'est que on a peut-être souffert dans l'Église à une certaine époque d'une conception trop étagée de la personne humaine, mal hiérarchisée, où il y aurait le corps en bas, l'esprit au milieu et l'âme très très haut dans une haute considération de l'âme. Et plus on descend, plus on se dégrade. Voilà. C'est une, à mon avis, une conception. Une mauvaise interprétation de la philosophie grecque sur ces questions, et en tout cas, à ces conceptions un peu manichéennes ou dualistes, je préfère la conception biblique qui voit l'unité de la personne, où l'âme n'est pas en haut, en bas ou à côté. L'âme, c'est vraiment le principe d'unité de la personne humaine, où toutes les dimensions sont intégrées, où toutes les dimensions se correspondent, sont en relation les unes avec les autres. Voilà. Quand on allait dans cette séparation manichéenne, alors effectivement, on confondait pureté et propreté, par exemple. Hein. On était d'autant plus pur qu'on était très 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 haut, très très spirituel, et qu'on négligeait le corps. Pourtant, le Christ manifeste le sommet de la pureté sur la croix, où il transpire, où il souffre, où je vais jusqu'à dire où il sent mauvais. Hein, voilà. C'est-à-dire que malheureusement, dans la conception un peu trop janséniste hein, et très dualiste, on devait être heureux sans être épanoui. Non, on devait être saint, pardon, sans être épanoui. On devait être saint sans être heureux. Heureusement que de telles positions ne sont plus défendues aujourd'hui, hein, mais je crois qu'il en reste des traces. Et donc il faut combattre ces traces. Avec ça, j'ajouterais aussi une mauvaise conception du nous ne sommes pas du monde. Hein. Nous savons que le monde chez Saint Jean, qui correspond peut-être aussi d'une certaine manière, voilà, les biblistes vont peut-être critiquer, mais à ce qu'on appelle la chair, c'est Saint Paul, c'est le lieu où Dieu est absent. C'est le repli sur soi, c'est l'autosuffisance. Hein. Je pense que le sport nous apprend justement tout le contraire. L'unité de la personne, la considération de l'autre, le dépassement, la primauté de l'équipe, du collectif sur la performance individuelle. La dimension évangélique du sport, en dehors du fait que Jésus lui-même a été d'une certaine manière un sportif, puisqu'il marchait, il considérait son corps, il soignait aussi le sien, mais le corps des autres, c'est-à-dire toute la considération qu'il avait de son corps. Mais la dimension évangélique du sport, c'est aussi de dire que au nom de l'évangile, on a une certaine conception de la personne humaine. Cette conception de la personne humaine, elle n'est pas dans la priorité de l'intériorité sur l'extériorité au sens d'une opposition, mais au sens d'une relation. Peut-être qu'il y a une priorité de l'intériorité sur l'extériorité, mais l'extériorité est la manifestation de l'intériorité. Et plutôt que de prendre ces catégories d'opposition entre âme et esprit, entre intériorité et extériorité, il me semble que ce qui fait la caractéristique principale de la dimension évangélique, c'est la relation. C'est la relation. Ce qui est du domaine de la chair au sens négatif, du monde au sens de l'absence de Dieu, c'est lorsque je me suis coupé de certaines relations. De la relation à Dieu, bien sûr, de la relation aux autres aussi, et de la relation à moi-même. Eh bien, je pense que le sport parle de ces trois relations. Alors, celle qui peut-être apparaître pour les sportifs la plus surprenante, c'est la relation à Dieu. La relation à Dieu, je dirais que dans le sport, elle se manifeste à travers le fait que mon corps, je le reçois. ma personne, je la reçois. Tout ce que je suis, je dois le recevoir comme un cadeau, voilà, comme un don de Dieu. C'est la considération de Dieu comme créateur et moi-même comme créature. Et d'être d'abord dans l'action de grâce, de recevoir ce que je suis. Je n'ai pas le choix d'abord, hein, mais donc n'ayant pas le choix, autant en rendre grâce. Et mon corps a des caractéristiques dont je dois tenir compte. Et ben c'est pareil pour le sport. Quand on est petit et vif, je vous assure qu'il vaut mieux choisir le poste de demi de mêlée que celui de pilier. Certains sports plutôt que d'autres. Mais j'allais dire que dans le sport, tout le monde a sa place. Y compris pour aller vers les extrêmes, cet homme qui n'a ni bras ni jambes et qui traverse la Manche. C'est-à-dire que dans la pratique sportive, il y a d'abord la considération du fait que je suis une créature et donc que je reçois ce que je suis dans l'action de grâce. Le fait que je le reçoive, ça dit quelque chose qui est du domaine de la vérité du sport. Le sport, ça ment pas. Je peux pas faire semblant d'avoir un corps que je n'ai pas. Je peux pas faire semblant d'avoir un entraînement sportif que je n'ai pas. Je peux pas faire semblant d'être un champion de tennis. Je peux le dire, mais à partir du moment où je commencerai à prendre une raquette, on verra tout de suite que le sport ne ment pas. Donc, il y a quelque chose dans le domaine du sport qui est quelque chose qui est du domaine du réalisme. Or, la sanctification de la personne ne peut se passer de ce réalisme. Hein, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus disait, on ne peut pas être saint autrement qu'aujourd'hui. Moi, je dirais qu'on ne peut pas être saint autrement qu'aujourd'hui, avec les expériences que nous avons vécues, avec le corps que nous avons. Voilà. Et je ne connais pas beaucoup d'activités où cette dimension est à ce point prise en compte, de la vérité de ce que je suis, et prise en compte non pas comme un échec, mais parfois comme un défi, hein, lorsque il y a des difficultés, je pense en particulier à tout ce qui est du domaine du handisport, mais plus comme un défi que comme un obstacle. On voit des gens absolument incroyables faire des choses absolument des difficultés ou des handicaps qui pourraient qui auraient pu les mettre hors jeu ou les exclure de certaines autres activités. Donc vraiment, pour moi, il y a quelque chose de profondément évangélique dans ce réalisme qui est le réalisme spirituel dont parle Saint Thérèse d'Enfant Jésus, qui est aussi le fait d'accueillir ce don de la création de la part du Créateur. Donc relation à Dieu. Je reçois ce que je suis et je rends grâce à Dieu comme mon Créateur. Relation aux autres, relation à l'autre. Et là, c'est vrai c'est vrai dans le sport, quel que soit le sport, pas seulement dans le sport collectif, on en a parlé. La relation à l'autre, en fait, elle va faire que je vais être compétent en sport. Bien sûr, dans l'équipe, on voit ce que c'est. Hein, Benzema, en ce moment, il a plutôt des difficultés dans l'équipe de France parce qu'il veut presque trop bien faire. Il faudrait qu'il s'oublie un peu lui-même, comme tout le monde d'ailleurs, pour être tendu vers l'objectif. Et l'objectif, il est nécessairement dans le rapport à l'autre. Le rapport. Alors moi, j'aime beaucoup le tennis. J'ai fait du tennis en compétition. Donc, lorsque on joue au tennis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut avoir travaillé sa technique indéfiniment, longtemps. Il faut avoir appris à préparer ses coups, à prolonger son geste vers le haut pour donner de l'effet. Même quand on a touché la balle, on continue de prolonger son geste. Au filet, c'est l'inverse. On fait un petit pas en avant, on bloque son poignet, on bouge légèrement, on prolonge pas son geste. Enfin, tout ça, on l'a appris des dizaines de fois. Le service, le smash, le service, on lance 1000 fois la balle sans même lever la raquette. Pour apprendre d'abord le lancer de balle. Bon, ça, on l'a appris partout, tout le temps. On l'a répété, on l'a drillé des dizaines de fois. Ensuite, on a écouté les conseils éventuellement d'un coach qui nous a dit ce qu'il fallait faire, comment il fallait réagir. Et puis, finalement, le bon joueur de tennis, il va être vraiment performant quand il aura oublié tout cela. Il l'aura tellement pratiqué, il se sera tellement entraîné qu'ensuite, il va penser à l'autre. Penser à l'autre en étant en relation avec lui pour analyser ses forces et ses faiblesses, pour réagir en fonction de l'autre. Et je trouve que c'est très, très intéressant. On doit toujours avoir la considération de l'autre lorsqu'on fait un sport collectif ou un sport individuel. J'ai pris l'exemple du sport collectif, je prends aussi l'exemple du sport individuel avec le tennis. C'est un peu comme la moto, d'ailleurs, qui est aussi un sport. En moto, si vous considérez votre moto ou la piste, vous tombez, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est considérer l'horizon, quand on fait de la moto sur une route normale, et les autres, c'est quand on fait de la compétition. C'est-à-dire le temps de freinage par rapport à l'autre, le temps d'accélération par rapport à l'autre, et finalement, tout le reste, tout ce qu'on a appris, se vit naturellement. Hein, et donc, moi, je trouve que dans cette relation à l'autre, il y a quelque chose de très, très intéressant. Bien sûr, je l'ai moins développé parce que ça me semble tout très évident. Cette relation à l'autre, elle est très claire dans le sport collectif. Mais parfois, on oublie la relation à l'autre en tant qu'adversaire. Et c'est une énorme considération de l'autre que de le considérer comme adversaire, c'est-à-dire d'analyser ce qu'il est, de réagir à ce qu'il fait. Peut-être c'est aussi une énorme leçon de vie hein, dans la pastorale, j'allais dire, hein, s'adapter à l'autre et lui donner une réponse en fonction de ce qu'il m'apporte, de ce qu'il est, de ce qu'il présente de lui. C'est moi ce que j'appellerais la chasteté. Alors ça va vous surprendre ce mot-là à ce moment-là, mais la chasteté, c'est l'ajustement à l'autre en fait. C'est savoir profondément qui je suis et qui est l'autre et vivre cet ajustement-là. Cet ajustement, il est en vue d'une finalité. Évidemment, la finalité du sport n'est pas la même que la finalité de l'accompagnement spirituel. Mais il y a quand même cette finalité qui passe nécessairement par la relation à l'autre, au point que j'oublie complètement ma technique, je suis totalement pris par le jeu. Et on va jusqu'à dire parfois dans le sport qu'on atteint, lorsqu'on vit cela, un état de grâce. C'est quand même formidable que dans le sport, on parle d'état de grâce. C'est ce moment où on est un peu, j'allais dire, donné, quoi. On s'oublie soi-même, on est totalement tendu vers l'objectif, donné. Et là, tout s'enchaîne très bien. On ne sait pas pourquoi tout à coup la balle rentre dans le terrain quand on est dans cet état-là, comment le ballon rentre dans le but, comment on arrive à faire exactement tout ce qu'on souhaite faire, parce qu'on a pris la considération du jeu, on a pris la considération de l'autre adversaire, on a pris la considération de l'autre comme partenaire. Et le jeu se déroule tout seul, état de grâce. Voilà. Et je pense que ça dit la troisième dimension de cette relation, la relation à soi-même. Quand je me regarde jouant, c'est l'échec. Et justement, je me découvre moi-même, je me trouve moi-même dans la relation à l'autre. Et le sport, justement dans ce domaine, il ne ment pas. Hein. L'état de grâce, lorsque tout nous réussit, c'est ce qui définit l'unité de la personne, en fait. Lorsque tout est orienté, lorsque tout est unifié, c'est ce que Jean-Paul II appellerait l'intégration d'amour ou l'intégration de toutes mes facultés, de toutes mes dimensions en vue d'un but. Le but de la vie chrétienne, c'est la sainteté, c'est donc la charité. C'est sûr que le but ultime du sport, c'est effectivement la charité, mais le but médian, ça reste de gagner, hein. Faut pas avoir peur de cela. Moi, je pense qu'on peut dire que ça reste, c'est aussi la charité, parce que il y a en nous quelque chose qui est du domaine du chasseur et donc de la compétition. Ça fait partie de notre nature. Ça peut s'exprimer de façon très néfaste et très négative lorsque c'est vécu comme une revendication de soi-même. Ça peut être vécu comme très positif dans certains domaines, et le sport en est un, justement, qui fait droit à cette dimension de la personne humaine en respectant l'autre et finalement en considérant la troisième mi-temps comme aussi essentielle que la préparation et l'entraînement. Donc j'aime beaucoup le sport comme symbole de cette dimension de la personne qui s'exprime au mieux, qui ne ment pas, qui s'adapte aux réalités. Autre considération, elle s'adapte aux réalités même dans la vulnérabilité. C'est-à-dire que je considère, je deviens très performant lorsque j'ai une vraie conscience de mes faiblesses. Magnifique. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La vraie conscience de ces faiblesses, ça permet de les corriger, parfois de les esquiver, de les compenser. Hein. Dans le handisport, c'est très très net. Hein. Quand il manque un des quatre membres, cette compensation en vue de la performance est très importante. Et elle est du domaine presque de la survie sportive. Mais moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à la survie psychologique. Avoir la considération de sa faiblesse et sa vulnérabilité, c'est très, ça provoque des grandes performances dans le sport et c'est parfaitement évangélique. Parfaitement évangélique. Et donc, c'est aussi une des considérations un peu théologiques, en prenant Saint Paul, que je voulais apporter sur la table. Au-delà de ça, le sport considère aussi les plus faibles. Et il n'y a pas de sport où le plus faible soit exclu. on arrivera toujours à trouver une façon de jouer avec les uns et les autres, de les faire participer à un jeu, quelles que soient ses vulnérabilités, quelles que soient ses faiblesses. Et justement, dans une équipe normalement constituée, ces dimensions-là ne sont pas des dimensions qui nous font honte. Ça, c'est très important. Dans certains domaines de la société, quand on a une vulnérabilité, quand on a une faiblesse, on en a honte. Ici, on travaille au fait de les dépasser, de les intégrer, pour exprimer quelque chose de plus grand, de plus haut, quoi, j'allais dire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Il y a deux choses, pour rassurer Nagui. La deuxième chose, alors c'est tout à fait pastoral. C'est une considération que j'ai eue lorsque j'étais à la pastorale des jeunes. Je trouvais que, en particulier pour les sixièmes, cinquièmes, on s'adressait à leur intelligence alors qu'ils en étaient submergés de considérations intellectuelles. Ils avaient des heures de cours qui allaient jusqu'à 6-7 heures. Ils faisaient des maths, du français, de l'histoire, de l'anglais, que sais-je. Et on leur rajoutait en plus un cours de catéchisme. Un cours de catéchisme, derrière des tables qui étaient les mêmes tables ou le même style de table que celles qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en maths. C'est très important de faire des maths et de l'anglais. Mais à un moment, cette dimension assez française quand même aussi, parce que dans d'autres cultures, il y a une considération du corps, du sport et de la musique qui est beaucoup plus importante. Mais en France, il y a une dimension intellectuelle qui me gêne un peu et dans laquelle on s'est un peu engouffré en laissant de côté toute la dimension de l'action catholique et en considérant que puisqu'on pouvait faire de l'aumônerie auprès des lycéens, en groupe de travail, en réflexion sur des thèmes de vie, on pouvait le faire aussi avec les collégiens. Et donc, on a baissé le concept d'aumônerie aux collégiens et c'est devenu des cours de catéchisme. En fait, on s'est trompé. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient au cours de catéchisme et puis ils faisaient semblant que ça les intéresse, mais en fait, ils pensaient qu'à une chose, c'est de courir après un ballon dès que tout serait fini. Et oui, c'est ça la réalité. C'est que sortant le mercredi matin du cours de catéchisme, ils pensaient qu'à une chose, c'est jouer. Ou bien aller au cours de sport, alors là, qui les passionnait, le prof de sport, ça devenait un héros. Et en plus de cela, si le prof de sport avait était un petit brin anticlérical, le gamin de 6e, 5e, il disait « Oh ben, cette dame ou ce monsieur qui nous fait le caté, il est vraiment très très sympathique, mais c'est pas très attirant. Moi, ce que je préfère, c'est l'autre qui m'apprend à faire du foot. » Vous voyez ?» Et donc, il y avait une façon d'évangéliser qui était à contre-courant. Et on ramait pour essayer d'intéresser les gamins à quelque chose qui les intéressait pas. Heureusement, depuis, il y a un vrai progrès, je pense, dans les considérations pastorales, avec le renouveau des patronages, avec les camps qu'on organise à droite à gauche, qu'on organisait déjà, une considération du corps qui est nouvelle. Moi, ce que je souhaite avec ces réflexions pastorales que nous devons avoir à l'occasion des JO, mais que la FSCF a depuis longtemps, ainsi que tous ceux qui font du patronage, c'est de se dire, en fait, le Seigneur nous veut heureux et épanouis. Et il est content qu'on s'amuse. Voilà, c'est pas un gros mot de dire ça. Et il est content qu'on se fasse plaisir. Et ça, c'est une dimension pastorale très importante, de pouvoir faire droit à cet aspect de la personne. Et je pense que parmi les enjeux pastoraux qui sont devant nous, il y a l'enjeu de pouvoir à nouveau enthousiasmer la jeunesse autour de quelque chose qui soit pas du mensonge, qui soit pas du miel qu'on leur offrirait pour les attirer, mais qui soit une véritable considération de l'unité de la personne humaine, du bonheur dans la vie chrétienne, de l'épanouissement, du collectif. Et je pense que y a tout un champ qui s'ouvre à nous, qui a déjà été emprunté par beaucoup, mais qui demande de notre côté à faire des sacrifices, des renoncements, renoncer à faire de la foi quelque chose d'uniquement intellectuel. Même si la dimension intellectuelle est importante, la foi, c'est d'abord une relation. Et on enthousiasmera les jeunes. Moi, je souhaite, évidemment, à l'occasion de ces journées olympiques, de ces Jeux olympiques plus tard, du focus qu'on va mettre sur le sport, que les jeunes puissent se dire « Ah, mais comment elle s'appelle ?» Mélanie Robert-Michon, là, c'est Mélanie, non, c'est... elle est chrétienne. Ah bon? Elle est
Mélina,
chrétienne.
Mélina, je crois.
Mélina, voilà, Mélina, j'ai fait Mélina, regarde, elle est chrétienne, formidable. Hein, ou bien un tel judoka, il est chrétien. Donc il n'est pas en opposition avec sa foi. Donc on peut faire du sport en étant chrétien. Vous voyez, simplement ça. Parce que parfois, même si ce n'est pas exprimé comme ça, c'est dans la tête des jeunes. Hein. Pour être chrétien, il faut être triste et puis souffrir. Non, pour être chrétien, il faut être épanoui et heureux et joyeux. Hein. Et d'ailleurs, les fruits de l'esprit en Galates 5, 22 nous disent ce que c'est que la personne épanouie. Hein. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, humilité, foi, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. C'est un des fruits de l'esprit dont parle le pape François lorsqu'il s'adresse aux basketteurs italiens. Hein, la discipline, la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont des valeurs éminemment évangéliques qui sont des fruits de l'esprit et qu'on retrouve parfaitement dans le sport. La dimension de la paix, c'est une dimension essentielle. On en a beaucoup parlé, c'était la dernière fois avec Michel Dubost. Mais voilà, ce que je voudrais dire, c'est que il y a un enjeu considérable dans le domaine de la pastorale pour enthousiasmer les jeunes, et je souhaite qu'on puisse partir à la recherche de certaines pépites qui vivent ça de façon paisible, sans en faire une idole, hein, parce que je voudrais conclure là-dessus. Effectivement, notre apport en tant que chrétien, en tant que témoin de l'Évangile, c'est aussi de se dire, eh ben, tout cela, le sport comme les autres activités humaines, ça nous met en relation avec le monde, ça nous rapproche des gens, ça fait de nous des êtres profondément humains et on en a besoin. Mais ça n'est pas le tout de notre vie. C'est un moyen pour un peu plus, pour plus de charité, pour plus de paix, pour plus d'amour. On reprend les fruits de l'esprit et on a la finalité que doit proposer le sport. Et lorsque le sport s'écarte de cette finalité, il faut avoir le courage de le dire, voilà, comme certains le font lorsque la Coupe du monde de football est organisée au Qatar au mépris de certaines, du respect de certaines considérations de la personne humaine. Enfin voilà, donc deux volets, un volet théologique, un volet pastoral. Je vous laisse réagir. C'est ce que j'avais à vous dire comme un cri du cœur autour des valeurs du sport. Et j'aime pas trop le terme valeurs du sport, mais pour dire que c'est profondément évangélique. Voilà. Et on peut être profondément chrétien et faire du sport, tant mieux.